Bonjour à tous, les glyphosates au programme des jeudis en question cette semaine avec le collectif de Marcillac-Vallon. C'est Dominique Masset, cofondateur de campagne Glyphosate, qui est l'invité du collectif cette semaine. Et alors que l'Aveyron s'est joint il y a quelques semaines à cette grande campagne nationale de dépistage des glyphosates dans les urines des citoyens.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.
Les pesticides ne sont absolument pas évalués dans leur ensemble. C'est-à-dire que le produit, le bidon que vous achetez en jardinerie, que vous achetiez en jardinerie, puisque c'est interdit maintenant, n'a jamais été évalué dans son ensemble. C'est donc une méthode d'évaluation qui est totalement caduque, totalement déficitaire, et qui permet de mettre sur le marché des produits sans aucune évaluation correcte. Donc voilà, ça c'est un point important qui a fait que ces procès ont débouché là-dessus. C'était en 2017, fin 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en 2017, on avait saisi la Cour de justice européenne, elle ne s'est toujours pas prononcée 2 ans après. Hein. Donc le temps de la justice, le temps des politiques, on l'a vu aussi, hein, ça a été renouvelé. Donc on s'est dit, la justice, vous voyez là, ça a mis 2 ans, c'est toujours pas passé. Les politiques, on a vu les résultats. C'est renouvelé pour 5 ans. Notre chef d'État avait annoncé dans 3 ans, ça sera interdit. Il a annoncé 1 an et demi après que finalement, ça ne serait pas le cas. De toute façon, 1 an et demi était passé, donc on arrive quasiment dans les délais. Donc voilà, on s'est dit, c'est pas possible d'accepter qu'on soit empoisonné au quotidien et qu'on attende après ces gens-là pour arriver à aboutir à quelque chose qui nous mette en sécurité sanitaire. Comme l'État n'a pas travaillé dessus, il n'y a aucune étude sanitaire sur les effets du glyphosate et des pesticides en général, il était évident qu'on devait s'en mêler. Et est née l'idée, puisque nous avions, pour préciser ça quand même, c'est important, pour aller au procès, nous avions fait nos analyses d'urine devant huissier pour venir devant le tribunal en disant, voilà, on n'est pas que des lanceurs d'alerte, on est aussi directement concernés. On avait d'ailleurs proposé au président du tribunal de lui payer ses analyses. Ça l'a fait rigoler, mais ça n'a pas abouti. Donc, il était clair qu'il fallait qu'on aille plus loin que d'attendre que ces messieurs décident de s'occuper de notre sécurité alimentaire. D'où la campagne, qui avait comme but principal au départ de faire prendre conscience, à travers la multiplicité des analyses et le fait que ça soit partout en France, de faire prendre conscience à tout le monde que tout le monde en a. Ce qui est aujourd'hui très... Là, aujourd'hui, on a 1200 analyses de fait. Tout le monde en a. Des bébés, hein, puisqu'on a fait des analyses d'urine de bébés, des ados, des citadins, des urbains, des personnes âgées. Tout le monde en a. Et à des taux qui décoiffent. Hein. Et moi, quand j'ai appris le taux que j'avais... Je peux dire que ça a décoiffé. Alors, je vous dis pas quand je vous décoiffe, ça se voit. Dans le sens où, bon, moi, je vis en Ariège. Les individus, ce sont, on va toucher toute la chaîne des fabricants aux décideurs. D'accord? Donc, les individus, c'est une plainte qui est sur un laps de temps. C'est sur les présidents et membres des différents groupes que je vais citer. Et c'est sur un laps de temps pour que le juge d'instruction, quand la plainte sera instruite, qu'il puisse mettre des noms. Donc c'est les 2 derniers trimestres 2017, le 1er trimestre 2018. Sur ce laps de temps, on porte plainte contre les PDG et les membres du CA de toutes les boîtes qui fabriquent des pesticides à base de glyphosate. Ça, c'est pour les fabricants. Pour les décideurs, on porte plainte contre le président, et je ne vais pas le répéter à chaque fois après, contre le président et les membres de la Commission européenne, qui ont relancé les autorisations pendant 5 ans. Contre le comité d'appel de la Commission européenne, qui a travaillé à trouver un accord entre les États membres fin 2017, qui est, la Commission voulait 10 ans, ils ont réussi à obtenir à 5 ans. Contre l'EFSA, qui est l'organisme certificateur et l'organisme santé européen. Donc, président et membre, hein, je répète pas. Pour l'équivalent français, l'ANSES, l'équivalent allemand, le BFR, qui a beaucoup travaillé à favoriser ce renouvellement, contre l'ECHA, qui est l'organisme qui travaille à la mise sur le marché de tous les produits chimiques en Europe, contre les laboratoires complices, ceux qui ont signé des études qui ont été faites par Monsanto en disant que c'est eux qui les avaient faites. Et il y en a pas mal. Voilà. Ça, ce sont les cibles. Donc ça fait du monde. À chaque fois, c'est des dizaines et dizaines de gens. Deuxième point, c'est une plainte au pénal, pas au civil. On ne demande pas des contreparties. On veut que ces gens-là soient mis devant un tribunal et qu'on puisse leur demander des comptes. On ne cherche pas à en tirer de l'argent. Ça, c'est aussi un point important qui a un sacré impact au niveau médiatique aussi et dans l'image de la campagne. Et dernier point, on porte plainte. Pourquoi ? Quelles sont les incriminations que l'on propose ? C'est mise en danger de la vie d'autrui, c'est tromperie aggravée. Les Monsanto Papers ont démontré que Monsanto était au courant de la dangerosité, les études qui ont été falsifiées, les laboratoires qui ont signé, ceux-là, on les poursuivra pour ça, et atteinte à l'environnement, puisqu'il est évident aussi que la perte de biodiversité est évidemment liée aussi à l'usage de ces cides, hein, puisque tous ces cides sont des trucs qui tuent. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Hein. Alors, juste une chose, les faucheurs, je ne sais pas si vous le savez, sont toujours poursuivis, et toujours en réunion. Et on s'est dit, mais eux aussi sont en réunion. Donc on a rajouté en réunion, c'est un facteur aggravant, hein, et on a ouvert la porte au fait que si en cours de l'instruction, ils découvrent d'autres raisons, d'autres délits, entre autres conflits d'intérêts, et il y en a, et autre chose que libre au juge d'instruction de rajouter des incriminations à celles qu'on leur propose. Voilà. C'est pour clôturer le sujet plainte, on pourrait y revenir sur des détails. Voilà. Et on essaye le film, alors, cette fois-ci. Les premiers concernés directement dans leur être et dans leur famille et dans leur environnement, dans leur entourage, sont les paysans et les agriculteurs. Donc voilà. Et qui, malheureusement, on leur a tellement appris à se servir de ça qu'ils n'ont pas, ils ont eu beaucoup de mal à faire le pas. Et on les aide pas beaucoup non plus, d'ailleurs, hein. Parce que nous, notre projet, c'est l'interdiction immédiate des pesticides chimiques, le glyphosate étant un marqueur, hein, évidemment. Mais nous, c'est les pesticides de manière générale. Et interdiction immédiate et transition après. On interdit et après, on crée la transition et on aide avec des finances, on aide les agriculteurs à passer à autre chose. Mais il faut commencer par interdire. Il faut pas attendre la transition comme nous prétend aujourd'hui, attendre à trouver des solutions autres qui existent. C'est du pipeau. Il y a plein d'agriculteurs, et Alain Moll était un exemple vivant, il le dit lui-même, à l'époque, qu'on peut faire autrement. Donc les alternatives existent. Évidemment, ça demande une remise en question d'un système culturel. Évidemment que lorsqu'on a 350 hectares de céréales, c'est beaucoup plus compliqué de passer à autre chose. Mais voilà, il faut quand même à un moment donné que la raison reprenne le dessus et que la santé publique soit prise en compte. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus maintenant. Normalement, je crois que dans le déroulement de la soirée, il y a une pause. Donc, allez, je vais essayer de tracer rapidement les grandes lignes de la campagne, et puis après, c'est vraiment échange, questions. Et voilà. D'abord, comment tout ça commence ? Ben, tout simplement, on s'inscrit. Vous avez de l'autre côté du rideau rouge des tables où vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez pour participer à cette campagne. Donc on s'inscrit, on choisit en amont, on choisit si on veut simplement faire nos analyses ou si on veut porter plainte. Pourquoi ce choix se fait-il tout de suite ? C'est parce que ça n'a pas tout à fait le même coût. Évidemment, ça a un coût. Alors on va parler sous, ça c'est quand même important. Les analyses prix coûtant, en considérant l'envoi au laboratoire, les petites fioles et le prix de l'analyse, ça revient à 85 euros. Ça, c'est déjà première chose. Donc, pour savoir son taux de glyphosate, il faut être prêt à y mettre 85 euros. Là, on a juste le résultat. Si on veut porter plainte, ces prélèvements se font devant huissier. L'huissier est là, présent, et ne quitte pas les fioles, et c'est lui qui les expédie au laboratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de contester la réalité des prélèvements. On sait que les cyclistes arrivent à ramener l'urine de leurs copains pour ne pas passer, pour passer au niveau du contrôle antidopage. Nous, on ne veut absolument pas risquer ce genre de critique. Donc, pour être plus précis, nous, on a une huissière, un huissier, on a deux vestiaires, et les gens se présentent en sous-vêtements ou en maillot de bain. Eh oui. Pourquoi ? Parce qu'il est question, il n'est pas question devant un tribunal qu'on puisse nous dire c'est du pipeau, vous truandez, et de remettre en cause toute la validité des prélèvements. Je veux dire, ça représente un coût, ça représente un investissement, temps, argent. Il n'est pas question que l'on puisse contester les résultats. Donc les gens il y a un vestiaire qui est organisé, les gens, les dames vont avec l'huissière, les hommes avec l'huissier, et les gens se mettent en sous-vêtements ou maillot de bain, vont uriner dans les petites fioles, le remettent à l'huissier qui, lui, ne les quitte plus, et c'est lui qui l'expédie au laboratoire. Voilà, c'est le principe général, c'est beaucoup plus détaillé que ça et c'est beaucoup plus précis, pour justement éviter toute contestation. Alors au début, on avait même envisagé que le huissier assiste à la miction, mais on a senti que ça posait problème, et on n'est pas allé jusque-là. Mais par contre, lui va vérifier que les WC sont vides, il vérifie qu'il n'y a rien dans les WC, que tout est propre, qu'il n'y a pas de rien qui a été déposé, et il vérifie que les fioles sont d'origine, dans leur emballage d'origine, et il fait un constat, un procès-verbal de constat, dans lequel il y a des photos, il y a tout ça. Hein. Donc, devant un tribunal, ça rend les prélèvements corrects et non contestables. Ça, c'est vraiment important, parce que là, on est à, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à ce jour 1200 analyses qui ont été faites. Sur les 10 200 analysées, comme on sait à l'avance qui veut porter plainte, qui ne veut pas porter plainte, on a plus de 1100 personnes qui veulent porter plainte, la grande majorité. Et on a des milliers d'analyses en perspective. Donc, on va pas mettre tout en question, risquer de tout perdre sur une contestation ou sur quelqu'un qui voudrait, pour démontrer que la campagne est pipeau, qui viendrait faire une analyse truquée. Donc, le point du prélèvement, c'est le point le plus important de la campagne. Il faut qu'elle soit faite d'une manière très stricte, rigoureuse, il y a des protocoles. Ça, c'est le premier point qui est primordial. Une analyse des prélèvements fait correctement devant des huissiers sérieux. On a même un cahier des charges pour les huissiers. On leur impose des contrôles. On demande à ce que ça soit totalement rigoureux. Voilà. Donc, les analyses se font évidemment avec les premières urines du matin. Donc, évidemment, on ne va pas les faire à 10 heures. Hein. Sinon, il va y avoir des dégâts. Il va falloir acheter des serpillères. Donc, les analyses se font à partir de 6 heures le matin. Donc l'équipe qui organise arrive à 5 heures, prépare tout. Les huissiers arrivent un peu plus tôt pour vérifier que tout est correct. Et ensuite, on commence les prélèvements à 6 heures du matin. En général, à 9 heures, c'est fini. Pour permettre de mieux comprendre les origines et les raisons pour lesquelles on en a autant, et essayer de trouver des corrélations entre ces modes de vie, ces nourritures, où on vit, citadins, ruraux, il y a un questionnaire qui a été créé, un questionnaire mode de vie, puisqu'on n'a pas le droit de faire des questionnaires santé quand on n'est pas médecin, donc un questionnaire mode de vie qui va permettre au groupe qui s'est créé en Ariège et à un groupe scientifique avec des médecins, des biologistes, des cartographes, statisticiens, spécialistes de l'eau, sociologues, qui travaillent à analyser tous les résultats qu'il y aura partout en France pour essayer de trouver des corrélations entre son mode de vie et les résultats qu'on obtient. Et qui fera une publication sur ce sujet pour essayer d'avancer aussi au niveau scientifique. Voilà, la campagne est multiple, elle est multifacette. Il y a le bilan, le constat, il y a la plainte, il y a une étude scientifique, il y a espérer provoquer des études scientifiques d'autres, il y a un procès qui va amener expertise contre expertise. Donc on est en train d'essayer de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. On n'est pas les seuls. Hein. Je citerai Génération Future, qui a fait des travaux aussi les prélèvements d'analyse d'urine, il y a les coquelicots, il y a les apiculteurs qui ont porté plainte parce qu'ils avaient impossibilité de vendre leur miel. Donc il y a un faisceau d'énergie, un faisceau qui est depuis quelques 2 ans, on va dire, qui est en train de fonctionner et qui permettra, on l'espère, arriver à l'interdiction définitive du glyphosate, mais pas que, hein, puisque comme on le disait dans le film, si c'est pour le remplacer par du 2,4-D ou d'autres produits qui sont ou du Dacomba qui sont déjà là, ça n'a aucun sens. Le glyphosate a été choisi parce que c'est un marqueur qui n'existe pas dans la nature, enfin, qui n'existait pas dans la nature, qui maintenant existe outrancièrement dans la nature, mais qui n'existait pas. C'est une molécule complètement créée. Donc, quand on a du glyphosate, on sait que c'est parce qu'on a ingéré, inhalé ou touché des produits à base de glyphosate. Il y a une molécule qui est une molécule de dégradation, un métabolite, qui est la dégradation du glyphosate, qui est l'AMPA, AMPA. Je ne vous dirai pas le nom complet parce que c'est imprononçable. Mais on en trouve aussi dans d'autres produits, dans des savons, dans des choses comme ça. Donc on a abandonné l'idée de rechercher l'AMPA. On ne cherche que le glyphosate. Et aussi pour une histoire de coût. Déjà 85 euros, c'est pas donné. On voulait que ça soit le plus démocratique possible, c'est déjà un investissement. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, avant de laisser un peu le débat s'organiser, pour tous les médias qui nous suivent, et il y a beaucoup de médias qui suivent, hein, la campagne glyphosate et les autres campagnes, Coquelicot, Génération Future, je répète, et tous les autres, sont très suivis parce que les pesticides, c'est un sujet clé, sont très étonnés de la campagne. Parce qu'ils disent, voilà, il y a des gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller uriner, qui payent pour le faire, qui payent pour porter plainte, qui portent plainte non pas au civil pour avoir des dommages et intérêts, mais au pénal, c'est-à-dire sans aucun retour sur investissement. Ils disent, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment une campagne citoyenne. Deux mots sur le coût, ça coûte cher. Nous, on a commencé en Ariège, on a commencé sur fonds propres, comme ici ça commence. Puis au bout d'un certain temps, il y a eu des dons, il y a eu des gens qui ont dit « je fais un chèque de 100 euros ». On a eu un peu de sous et à partir d'un certain moment, on a pu, et vous verrez dans les questionnaires, on vous demande combien vous êtes prêt à payer, on a pu commencer à participer un peu, ou alors à proposer aux gens à payer en 10 fois, en 15 fois. Hein, donc ça fait des 10 euros par mois, par exemple. Ce qui devient accessible pour tout le monde. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de barrière financière. Mais ça, chaque groupe s'organise. Et le chapeau qui va tourner tout à l'heure et les dons d'associations amis peuvent permettre de contribuer à aider, à participer ou en tout cas à faire l'avance de trésorerie pour que ceux qui n'aient pas beaucoup de sous puissent payer. Il y a des étudiants qui ont dit, nous, on va se cotiser, on va demander à nos parents. Pour Noël, on va se faire payer une analyse. Il y a un village qui est dans le village en Ariège, un petit village qui s'est cotisé pour payer les analyses de 10 personnes. Ils ont fait la quête et voilà. Et c'est ça, pour moi, la campagne citoyenne. C'est où on trouve les moyens et on s'investit dans un projet comme celui-là. Donc, pour que les 50 euros qui servent pour la plainte puissent couvrir les frais d'huissier, il faut faut à peu près 25 personnes par huissier ou une trentaine. Et puis, au-delà, c'est compliqué parce que les derniers qui passent, ils passent un peu tard. Et ça commence à devenir difficile. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à la question. Ouais. Et effectivement, c'est collectivement que ça se passe, pour mutualiser les frais, évidemment.
Merci. Dans la même idée, vous avez donc dit que lorsque on est d'accord pour uriner et déposer plainte, vous n'avez pas donné le tarif. Est-ce que ça change de tarif?
Oui, c'est 50 euros de plus pour le huissier.
Je ne l'ai pas entendu.
Oui, je ne l'ai pas dit. C'est possible que je ne l'ai pas dit. J'ai dû
l'oublier. D'accord, donc c'est 85 voilà. Plus 50.
85 plus 50. C'est pour ça que la décision se prend avant.
D'accord.
Parce que si on décide de ne faire que 85, ça ne sera pas fait devant huissier, donc ça n'ira pas jusqu'à la plainte.
D'accord.
Donc c'est un engagement dès le départ. Mmh. Et donc il y a des sessions où on peut faire... Les gens qui portent plainte passent devant huissier, puis il y a un troisième lot qui passe à côté sans porter plainte, qui ne déshabille pas, qui ne rentre pas dans le circuit plainte.
Évidemment.
Donc effectivement, ouais. Ça coûte 135 euros globalement, et encore avec des huissiers raisonnables, Parce que là, il y a à Paris, par exemple, ils ont lancé la campagne, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est un peu compliqué pour eux de boucler le budget avec 135 euros. Il faut savoir que ces 135 euros ne servent qu'à la campagne. Hein, il n'y a pas de salariat, tout le monde est bénévole. Donc c'est vraiment le prix coûtant. Nous, en Ariège, nos huissiers ont fait un petit prix. Donc on paye un peu moins cher et ça nous permet justement de participer au prélèvement de certains. On a eu des familles avec 3 enfants qui ont fait leur prélèvement. Ça nous a permis d'aider à payer les analyses des enfants, par exemple.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est décidé, là on parle de l'être humain, mais aussi au niveau de notre planète Terre, par rapport à tout ce qu'elle a ingurgité de glyphosate, au niveau du procès qu'on pourrait intenter à son avis?
Il y avait donc 3 incriminations que l'on proposait à l'instruction. Mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Donc la planète, évidemment, c'était une évidence pour nous que la chute de la biodiversité, on sait que c'est très lié. Hein, je raconte toujours, moi il y a quelques années, quand je roulais en bagnole, il fallait que je nettoie mon pare-brise très régulièrement. Ça ne m'arrive plus jamais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup moins d'insectes. Et il est évident que tous ces produits en seed, hein, qui veulent dire tuer, sont en partie, pas que, mais en partie responsables de la chute du nombre d'insectes, donc des oiseaux, donc toute la chaîne. Et donc on a aussi considéré que de porter plainte aussi pour l'atteinte à l'environnement était d'une évidence. Voilà, c'est une réponse un peu peut-être à votre question.
Bonjour. Du coup, moi, je vous repose la question pour tout le monde. C'est une fois qu'on a, que nous ou la Terre a ingéré ce produit, combien de temps il va lui falloir pour l'éliminer?
Alors, c'est pas du tout le même temps entre ce qu'on ingère nous et ce que va recevoir la Terre. D'abord, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas les mêmes fréquences, même si on en ingère tous les jours. Et d'autant plus difficile de répondre, c'est qu'il n'y a pas d'études là-dessus. C'est aussi une chose qu'on aimerait qu'il se fasse. Justement, il serait temps peut-être qu'on sache quels sont. On sait vaguement au niveau des animaux qu'à peu près 30% de ce qui est évacué, on ne sait pas ce qui reste, ça n'a jamais été étudié dans le corps, mais au niveau de ce qui est évacué, il y a à peu près 30% qui est évacué par les urines et presque tout le reste, un peu par la sueur, par la transpiration, ce qui est un peu la même chose que les urines, et tout le reste par les selles, par les matières fécales. Hein, donc la grosse partie est évacuée par les matières fécales. Nous, on a choisi d'analyser l'urine pour des raisons concrètes, c'est quand même un peu plus facile à faire, plus agréable, enfin, si on peut parler d'agréable. Le gros est évacué par les matières fécales, la très grosse majorité, et le reste par les urines. Après, qu'est-ce qui reste dans le corps? Ce ne sont pas des métaux lourds, donc ça ne se stocke pas de la même façon dans les graisses, mais il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Encore une carence, ça aurait dû être étudié. Avant que ces produits soient mis sur le marché, c'était au moins étudier quelles sont les conséquences de stockage, quel est le stockage. Par contre, on sait qu'on en urine tout le temps, puisque jusqu'à maintenant, tout le monde en a. Sur les 1200 analyses, tout le monde en a. Et s'il y a 5000 et s'il y a 10 000 analyses, tout le monde en a, ça veut dire qu'à tout moment de l'année, statistiquement, ça veut dire qu'on en urine tout le temps. Donc, puisqu'on l'évacue, en moins en partie, qu'on en ingère tous les jours. D'accord. Donc la question, elle est justement là. On en ingère tous les jours, on en respire. Il y a eu en 95 des analyses d'eau de pluie qui ont été faites sur Rennes. Il y avait déjà 3 fois la dose autorisée dans l'eau potable qui pleuvait. D'accord. Ce qui peut expliquer que les copains qui vivent en montagne, qui ont leurs sources, leurs légumes de jardin et qui les mangent, ont jusqu'à 3,4 nanogrammes par millilitre, alors qu'ils ne mangent que leurs légumes de jardin. Et qui sont végétariens et qui vivent dans la montagne, ils se croyaient à l'abri. Sauf qu'il pleut où, en général? Sur les massifs forestiers et sur les massifs montagneux. Donc voilà, on est à l'abri nulle part, il y a des pollutions en permanence, on a dans nos vêtements. Quand on n'a pas de coton bio et qu'on a des cotons normaux ou des pantalons normaux, comme on peut acheter en général, eh ben, il y a des glyphosates dedans, il y a des pesticides dedans. Donc c'est permanent. Nous, ce printemps, on va faire des analyses de pluie, à différents points d'Ariège, plus ou moins, en s'éloignant de plus en plus des zones de traitement, et on va faire des analyses de pluie pour voir ce qu'il y a et quelle est la progression ou la diffusion. Parce que malgré tout, il faut savoir que quand on traite, c'est généralement quand il fait beau. Hein ? Et quand il fait beau, on sait qu'il y a une très grosse partie qui s'évapore. Ça, c'est clair, c'est connu. Et quand ça s'évapore, ça va où ? Dans l'atmosphère, dans les nuages. Et quand c'est dans les nuages, un jour ou l'autre, ça retombe. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc on s'est quand même rendu compte à travers ces 1200 analyses. Et surtout en Ariège, on en a déjà fait 300 et on en a encore pas mal à faire. On essaie de ponctuer sur l'année. Et on se rend compte qu'il y a des périodes où il y a des chutes très nettes et des moments où ça remonte très fort. Nous, on a vu des taux de 1 à 3 en moyenne sur 50 personnes et 50 personnes plus tard. Donc tout ça, c'est étudié par nos scientifiques, par les statisticiens. Et on va essayer de faire avec les cartographes des superpositions entre les traitements, la qualité de l'eau et les résultats. Voilà, pour essayer de trouver des réponses.
Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Et alors, je voudrais rebondir sur quelque chose, donc un nouveau label qui va sortir au niveau de l'agriculture, en tout cas ça a l'air bien en route, et qui s'appelle l'agriculture sur sol vivant. Donc c'est une agriculture qui prône un sol couvert pour éviter l'érosion des sols, et ça c'est une très bonne chose, c'est pas complètement nouveau. Et une agriculture qui veut nous expliquer que le glyphosate à microdose, c'est biodégradable et sans danger. Donc il vient d'y avoir une grande messe à Paris. Alors ils sont très habiles parce qu'ils font venir des gens très intéressants au niveau agronomique ou botanique ou dans l'agroforesterie, des pointures hein, qui depuis longtemps d'ailleurs travaillent pour le vivant, pour le vrai vivant. Et là, ils viennent d'abattre vraiment leurs cartes puisque ils ont déployé les bannières Bayer-Monsanto comme financeurs de ce nouveau label. Et ils ont beaucoup d'argent et ils savent très bien communiquer. Donc il doit y avoir des agriculteurs dans la salle ou des futurs consommateurs de ces produits qui peut-être vont arriver dans les boutiques, ne les achetez pas. Et donc, il y a un article qui est sorti dans une revue professionnelle pour les professionnels du bio, qui s'appelle Biolinéaire, que j'ai récupéré aujourd'hui. J'en ai fait une photocopie pour les gens de glyphosate, de la campagne Glyphosate 12. Mais cet article, donc, de Claude Aubert, a été repris dans Le Point du 25 février, donc vous pouvez accéder à l'article sur Internet, et peut-être il y a eu des articles déjà dans d'autres journaux, et informez-vous, c'est important. Le glyphosate, comme vous venez de l'entendre, et voilà, c'est pas sans danger.
Juste une petite réponse, hein. La biodégradabilité du glyphosate a valu à Monsanto une plainte et une condamnation il y a quelques années, parce que c'était sa publicité, c'était le glyphosate est biodégradable, et c'était mensonger, et il a été poursuivi et condamné pour ça. Et quant à la couverture du sol, c'était un projet de bio au départ, hein, de ne pas retourner le sol et de travailler sur des semis sur sol couvert, sauf que ça a été repris par l'agro-industrie, où la méthode est toujours la même, sauf que pour... au lieu de, par exemple, de couper, de prendre des engrais verts, ils ont replanté sur un sol qu'ils avaient d'abord désherbé avec du glyphosate. Donc il y a une sorte de dévoiement d'un projet qui était au démarrage un projet prôné par les bio et qui a été ensuite complètement détourné avec des traitements post-prélevés sur des sols qui étaient avec un couvert végétal. Donc voilà, c'est des manières de détourner les choses et je suis d'accord là-dessus.
Est-ce qu'il existe un désherbant positif, bien,
j'ai beaucoup naturel. De mal à dire. Ouais, naturel peut-être, bien. C'est, il y a toujours des effets secondaires. Hein. Le meilleur désherbant, c'est le désherbant mécanique, on va dire, hein. C'est-à-dire manuel ou machine, mais mécanique. Même le vinaigre le vinaigre blanc est un désherbant. Hein. Mélangé avec de l'eau, mais ça détruit aussi les micro-organismes. De toute façon, tout ce qui va être entre guillemets, ou avec la terminologie, le préfixe, le suffixe seed, donc herbicide, quel qu'il soit, tue, de toute façon. Donc, il y en a des moins pires que d'autres. Juste pour information, il y a un Roundup à base d'acide acétique, donc en gros à base de vinaigre. Et on parlait tout à l'heure des coformulants, etc. Si la molécule active annoncée par Monsanto, c'est le vinaigre, évidemment qu'on va dire que c'est pas dangereux, sauf qu'il y a tout le reste. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé des herbicides naturels et non dangereux. Peut-être en existe-t-il, mais il faut être prudent, quoi. Il faut être prudent.
Oui.
Pardon ? L'eau chaude, oui, avec du sel, mais bon, il y a des effets secondaires, de toute façon, sur le sol. L'eau chaude, tu mets de l'eau bouillante sur un sol, tu vas tuer les vers de terre qui sont en dessous, quoi.
Oui, quel laboratoire vous avez choisi pour faire les analyses, et est-ce que vous avez pu vous assurer que ce laboratoire n'est pas un cheville, on veut dire, d'une façon ou d'une autre, par derrière ou autrement, par Monsanto et les autres autour de Monsanto qui ont des intérêts à ce que ça se passe comme ça se passe.
On a travaillé presque un an à mettre cette campagne en route, hein, et on a fait des recherches de laboratoire. Évidemment, on a cherché différents laboratoires. On a eu beaucoup de refus. C'est-à-dire, au départ, pas de refus, puis après, trois jours après, non, finalement, ça ne nous intéresse pas. Donc là, on a su qu'il y avait sans doute des meilleurs clients que nous, qui auraient trouvé pris ombrage du fait qu'on fasse des analyses chez eux. On a choisi le même laboratoire qu'avait utilisé Génération Future. C'est un laboratoire allemand qui est certifié depuis 1997, qui utilise une méthode qui nous intéressait, la méthode ELISA. Elle nous intéressait pour deux raisons, c'est qu'elle a un seuil de détectabilité intéressante, assez basse, un 0,075, et qui est fiable, qui est un protocole simple et qui ne coûte pas trop cher, parce qu'on voulait que ce soit une campagne citoyenne et la plus démocratique possible. Aujourd'hui, c'est le laboratoire qui est attaqué, mais par nos opposants, par M. Gilles Rivière-Werkstein, qui est un monsieur qui sévit depuis des années contre les faucheurs, contre les antipesticides, et qui est un lobbyiste, qui se dit journaliste, mais qui en fait travaille dans une boîte qui n'a rien de journaliste, qui attaque le laboratoire, parce que justement ce laboratoire trouve les résultats et contrairement à un laboratoire payé par Monsanto, trouve des résultats jusqu'à un seuil très bas, et pour l'instant tous nos résultats sont positifs, au sens on va dire qu'ils sont négatifs, hein, mais ils sont positifs, c'est-à-dire qu'il y a du glyphosate. Je peux m'assurer, je suis sûr que si Monsanto tenait les rênes de ce laboratoire, on aurait sans doute beaucoup moins de résultats positifs. Donc la preuve de la qualité de ce laboratoire, je vous dis, il est certifié depuis 1997, donc certifié par un organisme allemand, hein, par l'État allemand. On peut se dire que ce laboratoire est honnête et indépendant. Voilà. On a vraiment cherché, hein, et après il y avait des protocoles tellement compliqués qu'il y a certains laboratoires qu'on n'a pas pu retenir. Voilà. C'est un laboratoire allemand, hein, très connu, qui a un laboratoire vétérinaire, puisqu'il travaille beaucoup sur les matières organiques, sur les animaux. Mais nous sommes des animaux.
Moi, si j'ai bien compris, donc on va tous faire pipi ensemble à 5h du matin devant monsieur l'huissier pour les messieurs, madame l'huissière pour les dames.
Par exemple.
Voilà, ensuite tout ça part au laboratoire en Allemagne qui n'est pas payé par Monsanto. Et ensuite, comment ça se passe pour porter plainte, vu qu'on est des individus qui portent plainte contre des individus? Où est-ce que ça se passe? Enfin, voilà.
Ben, la campagne, c'est une campagne collective. Donc, les prélèvements se font collectivement et les plaintes sont gérées par le groupe local aussi. C'est-à-dire, vous allez recevoir à un certain moment, une fois que les résultats sont revenus, vous allez recevoir vos taux individuels. Alors, je vais être plus précis. Quand vous faites votre prélèvement, vous remplissez une feuille, nom, prénom, vous signez, et l'huissier attribue un numéro de fiole dans lequel vous allez uriner. Le laboratoire ne reçoit pas les noms des gens. Il reçoit un numéro de lot et des numéros de fiole. Au retour, vous allez avoir le numéro de lot et vos résultats qui ne sont pas nominaux. D'accord ? Le groupe local va faire la correspondance entre vos feuilles d'inscription et le consentement que vous avez signé et ses résultats. Et les résultats vont être envoyés à l'huissier, qui va lui aussi faire ses correspondances, parce qu'il lui va avoir un double de cette liste. D'accord ? Vous me suivez ? Parce que c'est un peu... Voilà, mais je vais quand même être précis. Donc, une fois que l'huissier a les résultats et la feuille qu'il a gardée, il fait la correspondance, il a reçu de la part du groupe local vos consentements, parce qu'il y a un consentement à donner, vu la protection des données personnelles, c'est obligatoire maintenant, il y a un consentement qui est signé, et la feuille d'inscription, le talon de la feuille d'inscription qui est joint, ça va être scanné par le groupe local, il va joindre ça dans le procès verbal. Ça, c'est le premier point. Une fois que le groupe local a reçu le procès verbal, d'accord, il organise le dépôt de plainte. Voilà. Il va vous contacter, vous serez dans des listes, c'est là où il faut un consentement, justement, pour être dans les listes. Il va vous envoyer les dossiers à remplir pour les plaintes. C'est la même plainte pour tout le monde. Petite différence pour les parents qui portent plainte au nom de leurs enfants. Puisque nous, on a des bébés qui ont fait leur prélèvement, des ados. Donc ce sont les tuteurs légaux qui doivent porter plainte au nom de leur enfant. Donc il y a un petit formulaire en plus, un peu différent. Vous aurez tous la même plainte à remplir. Vous remplissez, vous signez, vous mettez votre taux. Et ces plaintes, soit vous y allez collectivement, si le groupe local le fait. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. On invite tout le monde à venir le même jour au tribunal et vous allez déposer vos plaintes individuellement. Et pour ceux qui ne peuvent pas les déposer ce jour-là, il faut les renvoyer aux groupes locaux, les plaintes, et eux vont l'envoyer aux avocats qui vont se charger de le déposer à Paris. La plainte est actuellement... Les premières plaintes ont été déposées en Ariège, à Foix. Le tribunal a décidé que s'il était incompétent pour traiter ce genre de plainte, et a saisi le tribunal de Paris, pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris. C'est lui qui était en charge de ce dossier-là, et c'est très intéressant, ce qui fait que toutes les plaintes de France et de Navarre vont arriver à Paris. Elles sont toutes jointes sur le même dossier, il y a un numéro de dossier qui est créé. Toutes les plaintes vont être renvoyées à Paris de toute façon. Qu'ils soient déposés ici, ailleurs ou ailleurs, de toute façon seront renvoyées à Paris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces plaintes vont donc être défendues par les mêmes avocats. On a un cabinet d'avocats qui s'est spécialisé, qui est au top, et je vous garantis qu'on les connaît depuis longtemps, c'est des super, c'est des militants, ils sont heureux comme tout que cette plainte se pose. Ils font des tarifs préférentiels et ils sont hyper compétents. Pour préciser aussi un point important, l'investissement que vous allez devoir faire, c'est l'analyse et mutuellement, enfin en commun, payer les huissiers. Donc c'est 135 euros. Nous, campagne nationale, on va collecter, on a commencé, et on va continuer à faire des recherches de fonds pour prendre en charge tous les frais de justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez déposé votre plainte, vous n'aurez plus de frais. Tout va être pris en, tous les avocats, tous les frais d'avocat seront pris en charge par la campagne Glyphosate France, celle qui est créée en Ariège, pour éviter que vous n'ayez des conséquences ultérieures. L'idée, c'est que votre engagement, c'est participer à la campagne, payer vos analyses, évidemment, parce que c'est pas possible d'imaginer de les faire payer par d'autres. Mais c'est tout ce que vous aurez, et après, vous aurez peut-être une convocation un jour, mais vous pouvez vous faire représenter, vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous pouvez vous faire représenter par vos avocats, par nos avocats. C'est clair ? Voilà. Voilà le principe. C'est une plainte individuelle portée collectivement. C'est une campagne, et qui dit campagne dit collectif. Voilà. Tout est porté collectivement. Il y a un moment donné, quand le procès se pointera à l'horizon, on vous demandera à tous, peut-être, de remplir des demandes d'aide juridictionnelle, parce que c'est l'occasion de faire payer un peu à l'État sa déficience. L'objectif du questionnaire mode de vie, déjà, de pouvoir justement, puisque l'alimentation, la boisson... Le type d'eau qu'on boit, tout ça est répertorié dans ce questionnaire. Ensuite, il est clair qu'au démarrage, on touche le premier cercle. C'est une évidence. Les copains militants, les gens intéressés. Voilà. C'est évident que nous, dès le départ, sur les 6 séances ou 7 séances de prélèvement qu'on a fait, Au début, on touche les militants, les copains, les gens qui sont directement intéressés, les bio. C'est pour ça d'ailleurs que ça a tout de suite choqué, parce que c'était tous les gens qui bouffaient bio. Et qui en avaient tous, et pas qu'un peu. On a commencé à toucher le deuxième cercle, là, en Ariège. On touchera peut-être le troisième cercle, on espère avoir des agriculteurs, des cultivateurs, des viticulteurs, des gens qui manipulent ces produits, ou qui ne les manipulent pas, d'ailleurs. Hein, on a aussi des agriculteurs qui ne manipulent pas, qui ont fait leurs analyses. On espère trouver, voilà, on espère que ça va sortir de ce cercle-là, mais ça, c'est pas nous qui allons le décider, c'est eux. Charge à nous d'essayer de leur faire comprendre que c'est pas contre eux qu'on agit. Hein. C'est aussi pour eux. Que moi, j'ai rien contre les agriculteurs. Hein. Moi, ça n'a jamais été mes adversaires. Mes adversaires, c'est ceux qui leur ont appris, hein, qui les ont fait croire qu'en utilisant ces produits, ils allaient nourrir la planète, et qui continuent à le faire, les techniciens des chambres d'agriculture, la FNSEA qui continue à faire du lobbying. Moi, si je dois trouver des adversaires et pointer des adversaires, ça sera eux. On ne porte pas plainte contre les agriculteurs. Ce n'est pas l'objectif du tout, il ne faut pas se tromper de cible. Par contre, il est compliqué peut-être pour eux, et ça, il faut le savoir aussi, de faire le pas, d'aller peut-être à contre-courant. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple de décider de faire autrement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur jeter la pierre aux agriculteurs. Je disais tout à l'heure que le seul moyen, c'est que cette molécule soit, c'est que ces produits-là soient interdits. Et qu'il y ait vraiment des financements publics pour créer, pour que cette transition se fasse. Mais on commence par interdire. Parce que c'est, il n'y a que ce moyen-là. Tant qu'on ne l'interdira pas, on reprolongera l'autorisation parce qu'il y aura toujours le propos qui sera tenu. On ne peut pas s'en passer. Alors qu'on peut s'en passer, peut-être faut-il changer les méthodes culturales, peut-être y a-t-il une reconversion à faire. Certains l'ont fait, donc d'autres peuvent le faire. Il est évident que les tailles des entreprises, que l'outillage qui a été mis en œuvre et acheté à un grand coup de crédit seront peut-être plus les mêmes. Il faut aider, il faut qu'il y ait vraiment une démarche nationale, une démarche volontaire des politiques en charge qui, au lieu de continuer à autoriser, mettent de l'argent pour créer une transition possible. Après, la convaincre individuellement chacun des agriculteurs voisins, c'est bien de le faire. On est d'accord là-dessus. Sauf que voilà, c'est vraiment compliqué. Et il faut avoir ce lien qui existe. Bon, moi, je suis faucheur volontaire. C'est pas moi qui vais aller discuter avec les agriculteurs. Je suis pas. C'est compliqué. La relation est un peu difficile. Tout simplement, hein, je le dis clairement. Voilà. Et je comprends que ça soit difficile pour eux d'accepter la parole d'un faucheur volontaire. Mais si vous avez des voisins agriculteurs, des copains, des gens du village, parlez-en. Évidemment, c'est ça aussi la campagne citoyenne. C'est ça aussi l'engagement citoyen. C'est d'être capable d'en parler. Moi, j'ai quelqu'un dans le groupe, un des co-créateurs de la campagne, qui est d'une famille d'agriculteurs et qui, depuis que la campagne a été créée, dans sa famille, ils ont enfin abordé un sujet qui était tabou. Et ça commence à parler. Et là, petite fille qui a repris l'exploitation commence à envisager de se passer des pesticides. Actuellement, il y a une convergence et un faisceau de travail qui est fait, qui contribue tous à son niveau, à sa manière. Avec, il y en a qui font des analyses de cheveux. Alors, voilà, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Ce faisceau-là, c'est un faisceau gagnant. Voilà, pour moi, c'est un faisceau gagnant. Et si on est 10 000, c'est beaucoup mieux que d'être 1000. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de chiffre maximum ni de délai. On peut s'arrêter quand on aura gagné, par exemple. Ça peut être une bonne raison de gagner. Et on passera aux autres pesticides dans la foulée, parce qu'il y en a d'autres.
Oui, bonsoir. Juste une remarque. Il me semble qu'avant-hier, il y a eu une victoire aux États-Unis d'un agriculteur qui a gagné, qui a fait reconnaître son cancer comme ayant pour origine le glyphosate, justement. Et avec des milliers de plaintes derrière aux États-Unis qui, peut-être, du coup, vont pouvoir déboucher de façon plus générale. Il y avait un autre point aussi que je voulais évoquer. Il me semblait que c'était Génération Future qui avait mis ça en évidence. Ils avaient mesuré que les poussières dans l'air, qui se retrouvaient jusqu'à 2 à 4 kilomètres des champs dans lesquels ça avait été épandu, contenaient du glyphosate. Et c'était pas dû tant à l'épandage qu'au mode de respiration de la plante qui, tout au long de l'année, recrachait le glyphosate. Donc c'est pas juste au moment de l'épandage, c'est vraiment tout au long de l'année, et ça touche des gens jusqu'à 4 kilomètres aux alentours, etc. Et après, juste une dernière remarque aussi sur le point, pour dire que malheureusement, toutes les pollutions se potentialisent. Les personnes qui sont chimico-sensibles, et c'était le professeur Bellepomme qui avait mis ça en avant, sont aussi souvent électro-hypersensibles, car ce sont les mêmes marqueurs biochimiques. Et parce que par exemple, pour les personnes qui sont dites électro-hypersensibles, et ça concerne 3,3 millions de Français, officiellement selon l'ANSES, il y a une ouverture de la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau de tous les polluants, qui s'ouvre sous l'influence des champs électromagnétiques. Et du coup, pour 3,3 millions de Français, a priori, donc pour forcément plus, ça va potentialiser l'effet de tous les perturbateurs endocriniens, dont le glyphosate. Donc malheureusement, tout se potentialise et rien ne peut réellement se dissocier. Voilà.
Je suis complètement d'accord là-dessus. Et c'est vraiment le gros problème, hein, ce qui fait qu'on est dans un cocktail permanent. Alors pour revenir au procès, en deux mots sur les procès aux États-Unis, ce sont des personnes qui ont directement des effets sur la santé reconnus par soit des expositions massives et accidentelles, soit par des expositions régulières et qui ont pu prouver ou qui prouvent que la maladie, et on sait qu'il y a quelques reconnaissances comme ça en France, hein, après des longues batailles, certains agriculteurs, comme Alain Moll, qui est décédé entre-temps, avait réussi à avoir une reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle sur sa maladie de Parkinson. Il y a le lymphome non hodgkinien aussi, qui est directement lié. Et aux États-Unis, c'est beaucoup de plaintes sur les agriculteurs qui sont atteints d'un lymphome non hodgkinien et qui portent plainte contre Monsanto. Et donc, il y a, je crois, actuellement, près de 11 000 plaintes dans le monde contre Monsanto sur les problèmes du glyphosate. Et peut-être qu'avec la France, on va doubler le chiffre. Mais nous, c'est pas que Monsanto. C'est tous ceux, parce que la molécule glyphosate a été mise dans le domaine public depuis quelques années, donc tout le monde peut s'en saisir. Et tout le monde s'en est saisi, bien évidemment.
Prochain numéro des Jeudis en question avec le collectif de Marciac-Vallon la semaine prochaine, à la même heure.